Bonjour, ici Marc, bienvenue au 55e épisode du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures perspectives que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, on continue avec la traduction du livre de Larkin Rose, La superstition la plus dangereuse. Plus de mythologie. Outre le mythe du consentement des gouvernés, d'autres dictons et rhétoriques dogmatiques sont souvent répétés, bien qu'ils soient totalement inexacts. Par exemple, aux États-Unis, on enseigne et on répète fidèlement des idées telles que « nous sommes le gouvernement », « le gouvernement travaille pour nous » et « le gouvernement nous représente ». Ces aphorismes sont manifestement faux, bien qu'ils soient constamment répétés par les dirigeants et les sujets. L'une des affirmations les plus bizarres et les plus délirantes, mais très courantes, est que le gouvernement, c'est nous, le peuple. On enseigne aux écoliers à répéter cette absurdité, même si tout le monde est parfaitement conscient que les politiciens émettent des ordres et des exigences et que tous les autres s'y conforment ou sont punis. Aux États-Unis, il y a une classe dirigeante et une classe soumise, et les différences entre elles sont nombreuses et évidentes. Un groupe commande, l'autre obéit. Un groupe exige d'énormes sommes d'argent, l'autre groupe paie. Un groupe dit à l'autre où il peut vivre, où il peut travailler, ce qu'il peut manger, ce qu'il peut boire, ce qu'il peut conduire, pour qui il peut travailler, quel travail il peut faire, etc. Un groupe prend et dépense des milliers de milliards de dollars de ce que l'autre gagne. Un groupe est entièrement constitué de parasites économiques, tandis que les efforts de l'autre groupe produisent toute la richesse. Dans ce système, il est évident de voir qui commande et qui obéit. Le peuple n'est pas le gouvernement, loin s'en faut, et il faut un profond déni pour croire le contraire. Mais d'autres mythes sont également utilisés pour tenter de rendre ce mensonge rationnel. Par exemple, on prétend également que le gouvernement travaille pour nous, il est notre serviteur. Là encore, une telle affirmation ne correspond pas du tout à la réalité évidente de la situation. Ce n'est guère plus qu'un mantra de secte, une illusion intentionnellement programmée dans la population afin de déformer sa vision de la réalité. Et la plupart des gens ne se posent même pas la question. La plupart ne se demandent jamais « si le gouvernement travaille pour nous, s'il est notre employé, pourquoi décide-t-il du montant de notre salaire ?» Pourquoi notre employé décide-t-il de ce qu'il fera pour nous? Pourquoi notre employé nous dit-il comment vivre notre vie? Pourquoi notre employé exige-t-il notre obéissance pour tous les ordres arbitraires qu'il émet en envoyant des agents armés à nos trousses si nous désobéissons? Si quelqu'un peut vous diriger et prendre votre argent, il n'est pas votre serviteur. Et s'il ne peut pas faire ces choses, il n'est pas le gouvernement. Aussi limité soit-il, le gouvernement est l'organisation dont on pense qu'elle a le droit de contrôler de force le comportement de ses sujets par le biais de lois, ce qui rend la rhétorique communément admise sur les serviteurs de l'État tout à fait ridicule. Imaginer qu'un dirigeant puisse être le serviteur de ceux qu'il gouverne est manifestement absurde. Pourtant, cette impossibilité est présentée comme un évangile indiscutable dans les cours d'éducation civique. Un mensonge encore plus répandu, utilisé pour tenter de dissimuler la relation maître-esclave entre le gouvernement et le public, est la notion de gouvernement représentatif. On prétend que le peuple, en élisant certains individus à des postes de pouvoir, choisit ses dirigeants, et que les personnes en place ne font que représenter la volonté du peuple. Là encore, non seulement cette affirmation ne correspond pas du tout à la réalité, mais la théorie abstraite sous-jacente est également intrinsèquement erronée. Dans le monde réel, les gouvernements dits « représentatifs » font constamment des choses que leurs sujets ne veulent pas qu'ils fassent. Ils augmentent les impôts, s'engagent dans des actions belliqueuses, vendent leur pouvoir et leur influence à quiconque leur donne le plus d'argent, et ainsi de suite. Chaque contribuable peut facilement penser à des exemples de choses financées par son argent qu'il désapprouve, qu'il s'agisse d'aide aux grandes entreprises, d'aide à certaines personnes, d'actions gouvernementales qui portent atteinte aux droits individuels, ou simplement de la machine bureaucratique globale, gaspilleuse, corrompue et inefficace qu'est le gouvernement. Personne ne peut honnêtement dire que le gouvernement fait tout ce qu'il veut et rien de ce qu'il ne veut pas. Même en théorie, le concept de gouvernement représentatif est intrinsèquement impossible car le gouvernement ne peut pas représenter le peuple dans son ensemble, à moins que tout le monde ne veuille exactement la même chose. Parce que des personnes différentes veulent que le gouvernement fasse des choses différentes, le gouvernement ira toujours à l'encontre de la volonté d'au moins une partie de la population. Même si un gouvernement faisait exactement ce que veut la majorité des sujets, ce qui n'arrive jamais en réalité, il ne servirait pas le peuple dans son ensemble. Il victimiserait de force des groupes plus petits au nom de groupes plus grands. En outre, celui qui représente quelqu'un d'autre ne peut pas avoir plus de droits que celui qu'il représente. En effet, si une personne n'a pas le droit de s'introduire dans la maison de son voisin et de lui voler ses objets de valeur, elle n'a pas non plus le droit de désigner un représentant pour le faire à sa place. Mais dans le cas du gouvernement, les personnes que les politiciens prétendent représenter n'ont aucun droit de faire ce que font les politiciens, imposer des taxes, promulguer des lois, etc. Les citoyens ordinaires n'ont pas le droit de contrôler par la force les choix de leurs voisins, de leur dire comment vivre leur vie et de les punir s'ils désobéissent. Il est intéressant de noter que même ceux qui parlent de gouvernement représentatif refusent d'accepter toute responsabilité personnelle pour les actions entreprises par ceux pour qui ils ont voté. Si le candidat de leur choix promulgue une loi nuisible, augmente les impôts ou fait la guerre, les électeurs ne ressentent jamais la même culpabilité ou la même honte que s'ils avaient eux-mêmes fait ces choses, ou s'ils avaient engagé ou chargé quelqu'un d'autre de les faire. Ce fait démontre que même les électeurs les plus enthousiastes ne croient pas à la rhétorique du gouvernement représentatif et ne considèrent pas les hommes politiques comme leurs représentants. La terminologie ne correspond pas à la réalité et le seul but de la rhétorique est d'obscurcir le fait que la relation entre chaque gouvernement et ses sujets est la même que la relation entre un maître et un esclave. Un maître peut fouetter ses esclaves moins sévèrement qu'un autre. Un maître peut permettre à ses esclaves de conserver une plus grande partie de ce qu'ils produisent. Un maître peut mieux s'occuper de ses esclaves. Mais rien de tout cela ne change la nature fondamentale, sous-jacente, de la relation maître-esclave. Celui qui a le droit de gouverner est le maître. Celui qui a l'obligation d'obéir est l'esclave. Et cela est vrai même lorsque les gens choisissent de décrire la situation en utilisant une rhétorique inexacte et des euphémismes trompeurs, tels que « gouvernement représentatif »,« consentement des gouvernés » et « volonté du peuple ». La notion de « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple », bien qu'elle soit une belle rhétorique politique, est une impossibilité logique. Une classe dirigeante ne peut pas plus servir ou représenter ceux qu'elle gouverne qu'un propriétaire d'esclaves ne peut servir ou représenter ses esclaves. La seule façon pour lui de le faire est de cesser d'être un propriétaire d'esclaves en libérant ses esclaves. De même, la seule façon pour une classe dirigeante de devenir le serviteur du peuple est de cesser d'être une classe dirigeante en renonçant à tout son pouvoir. Le gouvernement ne peut servir le peuple que s'il cesse d'être un gouvernement. Un autre exemple de doctrine étatiste irrationnelle est le concept d'état de droit. L'idée est que le gouvernement par de simples personnes est mauvais parce qu'il sert ceux qui ont une soif malveillante de pouvoir, alors que l'état de droit, selon la théorie, consiste à imposer des règles objectives et raisonnables à l'ensemble de l'humanité de manière égale. Un instant de réflexion révèle l'absurdité de ce mythe. Bien que l'on parle souvent de la loi comme d'un ensemble de règles sacrées et infaillibles, découlant spontanément de la nature de l'univers, la loi n'est en réalité qu'un ensemble de commandements émis et appliqués par les membres du gouvernement. Il n'y aurait de différence entre l'état de droit et l'état des gens de tous les jours que si les soi-disant lois étaient écrites par autre chose que des humains. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi vous voulez que ceux dont on parle ici arrivent aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous, faites des heureux. Les médias sont de plus en plus censurés, mais laisser un commentaire sur iTunes, par exemple, peut aider les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la première partie de La superstition la plus dangereuse.